C'est appelé dans l'eau, des rigoles.
Pas tout le monde, c'est. Hein? Pas tout le monde, mesdames. Bonjour, chers amis. Ah, c'est dur, hein? Très dur, hein? Ah, oui. Bonjour, chers amis. Cette chaleur est très, très éprouvante. Je ne sais pas pour vous, mais le fait de circuler en voiture, d'aller visiter des personnes, c'est très éprouvant. Et demain, il fait encore plus chaud. Et je pense à notre cher ami, pasteur Saïd, au Pakistan, qui me dit, je dois circuler en moto, une petite moto, à travers les villages. 60, 80 km par jour vers 5 villages et il fait des chaleurs qui dépassent 45 degrés. Et il dit, je souffre très fort dans ma santé. Il a 32 ans pourtant. Et il me montrait hier des enfants à l'école qui étaient vraiment assommés par le climat, quoi. Ce lourd climat. Et question d'eau, il faut aller chercher l'eau à plusieurs centaines de mètres de là, la porter dans des bidons et puis la mettre à l'école et en donner à boire aux enfants. Puisque dans la parcelle de maison où ils sont, les chrétiens n'ont pas d'eau et d'électricité. Donc il faut absolument que les chrétiens aillent chercher l'eau d'autre part et encore la payent. C'est bien. N'est-ce pas? J'ai pensé à quelque chose aujourd'hui, vous lire ce verset dans Daniel, chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, les saints seront livrés entre ses mains pendant 2 ans et demi. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront, lui obéiront. Évidemment, quand on voit ça, n'est-ce pas, il s'agit d'une oppression, une oppression énorme sur les chrétiens, sur tous ceux qui sont convertis à Jésus-Christ. Donc, il s'agit d'animaux, c'est-à-dire de puissances humaines, à l'esprit bestial, qui oppressent les nations. Dans le chapitre 7 de Daniel, à partir du verset 23, et le principal leader de ce monde, qui à mon avis est déjà né, prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Quand j'ai vu un chef d'État européen dire c'est dans la Constitution, nous pouvons blasphémer. Nous pouvons blasphémer, de là à dire nous devons blasphémer, il n'y a pas loin. Hein? Et ce qui me déclenche ce sujet de message aujourd'hui, c'est que j'ai appris dans des écoles ici, pas loin, dans des écoles naturellement publiques de l'État primaire, que voilà, un document a été donné aux parents et aux enfants. Comment un gamin peut apprendre à aimer un gamin. Une petite fille apprend à aimer une petite fille. Je parle d'amour sexuel et affectif. Et comment on peut se masturber. Et écoutez, ces papiers sont distribués dans une école pas loin d'ici. Ça y est, on est en route dans la plus pure iniquité. Mais c'est une petite réflexion à force de faire des visites, à force de rencontrer des gens. Petite réflexion, je vois que tous les couples déchirés, les couples disloqués, où il y a eu bien sûr des tas de dérèglements sexuels et affectifs, les enfants en souffrent. Puis les enfants en souffrent et puis les enfants font n'importe quoi. Ils grandissent, ils se droguent ou ils satanisent, ils font des tas de choses. Et ils sont remplis de tatouages, de piercings et je remarque ça en allant dans les magasins, des voitures où c'est mis tatouages, pensées positives, zen, imposition des mains, magnétisme, etc. Dans nos villages, ici, de la région, clairement, l'occultisme s'est imposé. Et, les déficiences au niveau de la foi, au niveau de la théologie, une bonne théologie biblique, de la part des responsables religieux dans le catholicisme, a amené, bien sûr, un vide, un manque, et le vide se remplit avec toutes les folies du diable. Mais il est clair que les gouvernements en Europe, ici, veulent changer les lois de Dieu. Hein, il est dit dans le verset 25, Daniel 7, 25, « Il espérera changer les temps et la loi, les saints seront livrés entre ses mains pendant 2 ans et demi. Puis viendra son jugement, on lui ôtera sa domination. » Donc là, aujourd'hui, on voit que se manifestent des choses assez impressionnantes. Je reviens d'une visite où la personne me dit « C'est bizarre, j'ai des copains ». J'ai plusieurs personnes qui ont été en voiture et qui sont tout seuls sur la route, dans l'obscurité, et tout d'un coup, il y a comme un ange de lumière qui est sur la route, qui se jette sur la voiture, et je me demande ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut en penser, pasteur? Alors, je lui ai dit ceci, nous sommes dans un temps où, dans nos pays, nous avons laissé la place libre à Satan, nous avons vraiment laissé la place libre à Satan, et je vais vous dire pourquoi après les remèdes qu'il y a à ça. Et donc Satan maintenant se manifeste d'une façon libre et il cherche à s'assujettir les gens. Bon, vous savez, la voiture que j'ai vue ce matin était de Stoney avec tous ses autocollants. Mais il y en a une à une autre localité, ici, à 6 kilomètres de chez moi. Puis il y en a dans mon village. Et puis je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes homosexuelles et de personnes débridées dans tous les sens, ici. Bon, on ne se gêne plus. Et avec le soleil, beaucoup de femmes sont habillées sur le trottoir, dans la rue, comme elles devraient l'être dans la chambre à coucher. Je m'excuse du mot, mais c'est comme ça ici. Alors, et encore, si on se respecte, on ne s'habille pas n'importe comment dans la chambre à coucher. Mais cette manifestation des démons sous anges de lumière existe-t-elle? Hein? Est-ce que dans la Bible on en parle? Eh bien oui, dans 2 Corinthiens 11, verset 14, il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange aussi que ses ministres, ses serviteurs, se déguisent en ministres de justice, c'est-à-dire en serviteurs chrétiens, apparemment en tout cas. Leur fin sera selon leurs œuvres. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Donc, ces confidences qu'on me fait ne m'étonnent pas du tout, puisque déjà à Babylone à l'époque de Daniel et tout ça, de ses trois amis, il y avait la déesse Ishtar, la plus grande porte principale de Babylone, tournée vers l'Occident, c'était Ishtar. Ça a donné un culte énorme à une déesse, qui avait des apparitions venues du ciel en blanc. Et les Juifs qui avaient été en captivité là, même avant, qui faisaient du commerce, qui avaient des échanges culturels avec Babylone, avaient ramené le culte d'Ishtar et ils avaient changé le mot « Asherah ». Et puis, il y avait déjà chez les Cananéens des statues, des divinités féminines qu'on appelait les Astartés. Donc tout ça a été mélangé, puis il y a eu un culte de la Reine du Ciel, donc une femme en blanc lumineuse qui apparaissait dans le temple. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel se sont fâchés et ont parlé au nom de Dieu contre ce culte. Et puis il y a eu le culte du soleil, adorateur du soleil. C'est le culte de Zoroastre, c'est le culte des Sassénides. Les Sassénides, c'est une grande civilisation qui a couvert le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Kurdistan, etc. Et on adorait le soleil, et c'est Zoroastre. Et donc, il y avait aussi des êtres lumineux. Je suis tombé un jour en pleine forêt en France, en me promenant avec un ou deux chrétiens, sur un temple à Zoroastre, au soleil, caché au fond de la forêt. Et bien sûr, ces chrétiens m'ont mené là en se demandant ce que c'était. Moi, j'ai reconnu tout de suite les symboles. C'était le culte de Zoroastre et que les prophètes Ézéchiel, Daniel ont dénoncé. Bon, aujourd'hui, finalement, on en revient toujours à la même chose. Satan crée des manifestations spectaculaires, impressionnantes, pour les incrédules, pour les gens qui ne veulent pas aller vers la parole de Dieu, vers la croix de Jésus-Christ et confesser leurs péchés. Il y a donc des personnes qui deviennent esclaves de tout ça. Esclaves. Et c'est le but actuellement de la grande civilisation mondiale, des grands dirigeants de la civilisation mondiale. Il y a déjà dans notre monde beaucoup de personnes qui sont esclaves du travail, esclaves des banques, esclaves de l'argent, esclaves de l'angoisse, esclaves des médicaments. Mais si on regarde bien dans certains pays musulmans, il y a des gens qui sont intouchables, dans la classe des intouchables, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme moins que rien, qui n'ont pas de valeur, et dont on ne s'occupe pas, ou qu'on exploite en tout cas, esclaves, au sens propre. Il y a des millions d'esclaves, il faut chrétiens, aujourd'hui. Il faut compter, d'après les rapports de certaines missions, qu'il y a 280 millions de chrétiens durement exploités. Et qu'il y a le même nombre, 280 à 300 millions de chrétiens persécutés, mis dans des conditions difficiles de vie. Écoutez, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. On n'est pas loin de 600 millions. 600 millions de personnes qui croient en Jésus-Christ dans des pays hostiles et qui ont la foi en Jésus-Christ. Et le dominateur de ce monde essaye de leur faire perdre la foi. Et moi, je remarque qu'ils ne perdent pas la foi. Il faut les aimer, il faut prier pour eux. Il faut prier beaucoup, chers frères et sœurs, en Europe ici, pour tous les chrétiens du monde, les chrétiens en difficulté. Mais ici, en Occident, les chrétiens sont dans une autre difficulté. C'est qu'ils ne prennent plus, pour la plupart, le temps de lire la Bible et de prier. Quels sont les plus misérables, tout compte fait? Ils dorment, comme Éphésiens chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors entre les morts, ou ceux qui sont dans la foi et qui souffrent. » Quels sont les plus misérables? La misère réelle, pour moi, est spirituelle. Alors, mon message est ceci. J'ai rencontré hier un homme et une femme d'un pays musulman, africain, le plus islamiste possible, au moins autant que le Bangladesh et le Pakistan, où il n'y a que 0,2% de chrétiens. Et le combat est grand, comme à l'époque de la naissance du christianisme romain. Et voici ce que Paul disait. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, donc humainement, nous ne combattons pas selon la chair, nous ne combattons pas selon l'humain, l'humanité. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, humaines, elles sont puissantes par la Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc les forteresses, le mot en grec veut dire tout ce qui est idéologie contraire à la volonté de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez à quel point Paul, dans sa consécration à Dieu, à Christ, de sa vie, au service de Christ, peut dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alors que c'est un petit homme persécuté, un petit homme en prison, enchaîné, et qui a été décapité. Et son sang, comme le sang de beaucoup d'autres chrétiens sous l'empereur Néron, a donné une explosion de la foi dans l'Empire romain. Alors aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans les conditions les plus difficiles sont ceux qui vont gagner le plus d'âmes à Christ. Mais je voudrais vous dire une chose, j'ai une confidence à faire, c'est une souffrance de ma part. Est-ce que vous priez pour les chrétiens de l'Afrique, par exemple, qui souffrent beaucoup? Est-ce que vous les considérez comme des frères, vraiment des frères, faisant partie de votre propre corps, votre propre âme? Est-ce que vous passez du temps à prier pour eux? Du temps? Est-ce que vous passez du temps pour prier pour les chrétiens de Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan, d'autre part, en Syrie, en Irak, en Iran, en Russie, en Chine? Chers amis, nous n'avons qu'une arme redoutable, c'est la prière. L'incroyant, l'incrédule, lui, son arme, c'est l'argent et le sexe. Et ensuite, comme résultat, l'affliction, la peur, l'angoisse, les inquiétudes, les ennuis, les tribulations. Mais pour le chrétien qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a un privilège énorme. Il peut s'adresser à Dieu au nom de Jésus pour demander des choses et Dieu l'entend. Dieu l'entend. Alors, comment un pécheur peut-il être entendu par Dieu? Alors, je prends un texte aujourd'hui de Luc. Au chapitre 15. Un homme avait deux fils. Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Azelglia, ça veut dire dérèglement. C'est pas seulement le sexe, c'est dans tout. Ça peut être la pédophilie, ça peut être l'homosexualité, ça peut être le crime, ça peut être le vol, etc. Hein? L'ivrognerie, etc. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Azelglia, dérèglement. Lorsqu'il eut tout dépensé, hein, qu'il ait péché jusqu'au summum, au summum du péché, qu'il ait dépensé tout son argent et aussi vendu son âme au diable, hein, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. C'est ce qui attend nos pays. Tous les pays qui ne se consacrent pas à Christ et qui ne regardent pas vers Jérusalem, qui ne regardent pas vers Jérusalem, pour attendre le Messie et pour s'adresser à lui. Parce que c'est là qu'il est mort sur la croix, c'est là qu'il va régner, c'est là qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Tous ces gens vont connaître la progression des déserts, des chaleurs, de l'assèchement, et regardez Zacharie 14. Alors, la famine n'est pas un hasard, la sécheresse n'est pas un hasard, les réchauffements climatiques ne sont pas dus rien qu'au pétrole, etc. Alors, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges. Qu'est-ce que c'est que des carouges? J'ai visité Israël et sur une colline, on montait la colline, il faisait très chaud comme aujourd'hui, et il y avait des arbres avec des grandes gousses, comme des grands haricots, de 50-60 cm, très bruns, foncés, et ça a le goût de chocolat quand on mange ça. Sauf que la graine est dure comme de l'acier, on ne sait pas la manger. Mais les cochons adorent ça, eux, ils avalent tout. Si on les dépend de l'arbre. Donc il fallait les cueillir dans l'arbre et les donner aux cochons. Mais le bonhomme ne pouvait pas, là, le juif, qui était dans un pays de péché, un pays hostile à la Torah, hostile à l'Éternel, ne pouvait pas manger la nourriture des cochons. Est-ce que c'est à cause de l'autorité local des propriétaires des cochons, ou est-ce que c'est à cause des principes juifs qu'il ne peut pas manger ce qui est la nourriture des cochons? Je n'en sais rien. Personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel, donc contre Dieu, et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Sentiment de culpabilité, de dévalorisation, dépression spirituelle, si vous voulez, et autodégradation de l'image de soi-même. Eh bien, aujourd'hui, chers amis, je le vois, si on fait des piercings, on met des tatouages ici, hein. Au Rox, il y a 4 ans, au Rox, à Marche, à 80 km d'ici, il y a eu 3 jours où il y a des explosions de tatouages qui sont venus, et il y a plein de gens qui sont venus se faire tatouer. 600 000 euros de dépensés pour cette folie. Et ça continue. On va voir les médiums, on donne énormément d'argent, on va voir ceux qui font les cartes, on va voir ceux qui font les lignes de main, ceux qui parlent avec les morts. Aujourd'hui, ici, dans notre société, on est comme à Babylone au temps de Daniel. On est comme au temps d'Abraham, à Ur en Chaldée. On en est revenu là, en Europe en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je ne suis plus rien du tout aux yeux de Dieu, ni de mes parents, de rien du tout, de ceux qui ont la foi. Et donc, quand quelqu'un reste dans cette situation, il ne peut jamais s'en sortir. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il se dit, s'il me prenait comme ouvrier, au moins j'aurais à manger. Donc, il se met au plus bas niveau. Donc, son orgueil est brisé et il se met au plus bas niveau. Eh bien, quand on s'abaisse, Dieu nous élève. Clairement, Jésus l'a toujours dit. Soit qu'on est abaissé par les autres, soit qu'on s'abaisse soi-même, Dieu nous élève ensuite. C'est une grande grâce que d'être humble ou d'être humilié. C'est une grande gloire. Pierre dit dans son épître, première et deuxième, que l'esprit de gloire est sur ceux qui souffrent pour lui, pour Christ. Alors, ici, cet homme, ben, il souffre pas encore pour Dieu ni pour Christ, mais il souffre tout de même. Parce qu'il a perdu toute image qualifiée, bonne, de lui-même. Et il semble que pour son père, il n'est plus rien du tout, sauf un manœuvre, un petit ouvrier. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Bon, ici, nous voyons que cet homme s'est levé. Le pécheur qui se lève, c'est le pécheur qui ne veut plus rester dans la situation du mécréant, du péché, du dérèglement. C'est celui qui se lève et qui va aller chercher Dieu. Il ne sait pas encore où il est. Il ne sait pas encore. Il alla vers son père. Donc, affectivement, sentimentalement, peut-être spirituellement déjà, il est en route vers Dieu, sans le savoir. Et qu'est-ce que dit Jésus? Nul ne vient à moi si ce n'est mon Père qui l'attire. Qu'est-ce qu'a dit Jésus lorsque j'aurais été élevé sur la croix? j'attirerai tous les hommes à moi. Donc cette parabole est bien conforme à la parole de Christ. C'est la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes peuvent revenir. Je regardais dans un magasin aujourd'hui, ma femme voulait acheter certaines choses, donc je suis rentré pour me promener, j'ai mal aux jambes, etc. Donc très mal aux jambes, donc il faut que je marche. Et donc je regardais personne. Et je vois que la plupart des femmes s'habillent d'une façon tout à fait singulière pour se différencier des autres, pour s'affirmer, et tatouage, piercing, coiffure spéciale, etc. Et puis parmi toutes ces femmes, il y a aussi des femmes musulmanes avec le voile qui passent là, et bon, je pense que quand elles rentrent chez elles, elles tirent le voile, elles tirent ce vêtement, elles ne sont pas différentes. Le voile, le vêtement, n'est qu'une apparence publique. Alors, j'ai le témoignage de plusieurs où j'ai été rendre des visites. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme a eu le courage d'aller vers son père et le papa est un bon papa. C'est un papa qui a toujours aimé son fils, comme l'autre d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Cet homme a une chance formidable, c'est qu'il a un papa qui l'aime. Eh bien, chers amis, les humains ont une chance formidable. C'est que le Dieu de Jésus est un Dieu d'amour, qui les aime. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et l'amour du Père est dans l'amour du Fils. Et quand Jésus dit, celui qui croit en moi et qui met en pratique ma parole, mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous l'aimerons. Nous ferons notre demeure en lui. Tout est une question de paternité de Dieu. La paternité de Dieu est fidèle, intangible, inchangeable, irréductible, ferme, définitive. Le péché d'Adam et Ève et toutes les mauvaises choses qu'il y a sur la terre n'arrêtent pas l'amour de Dieu. Dieu est constant, mais stable dans son amour, pas nous. Alors, même parfois en tant que chrétien, nous sommes lamentables, parfois, en église ou en famille. Il faut se surveiller, il faut demander pardon tous les jours, dire la parole et se repentir, évidemment, pour vivre comme notre papa, notre père, selon sa volonté. Alors, il courut se jeter à son cou, il embrassa. Qui? Le fils ou le papa? Le papa. Chers amis, c'est le papa qui court. Le papa court après nous. Le papa court après les humains. Le papa court après tous les pécheurs. Même les pires. Même les plus mauvais. Regardez l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, qui ravageait les familles chrétiennes, qui venait ôter les gens de force de leur maison. Dans son saint amour, Dieu est venu le chercher pour le mettre au service de son amour, amour divin pour les pécheurs. Je suis en contact actuellement avec un homme très fort en dépression, très révolté, super intelligent, mais intelligent, doué dans toutes choses. Et il est malheureux de voir comment le monde est dirigé par des menteurs et tout. Mais se voit-il comme menteur? Se voit-il comme pécheur? Je lui ai donné des choses à lire. C'était la maladie spirituelle de mon père. Tout homme est trompeur. Il m'avait enseigné comme ça. Et deux, trois heures avant sa mort, je lui ai dit, mais papa, regarde dans le psaume 116. Je disais, ah, dans mon âme, tout homme est trompeur. Mais tu as dit ça aussi. Tu me l'as enseigné. Mais moi, j'ai toujours cherché à aimer les autres, même s'ils me trompaient. Car Dieu est grand. Il aime, même si on le trompe, même si on ment, même si on est infidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Paul le dit dans Timothée, l'épître à Timothée. Alors, le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est réellement, il est écrasé, écrabouillé, humilié. C'est, il arrive à se détruire complètement lui-même. C'est pas Dieu qui l'a détruit. C'est pas Dieu qui l'a mis dans cet état-là. Et quand je circule en ville, un peu partout, je vois bien les gens comment ils sont. J'étais avec ma femme là dernièrement en visite en France et elle me parlait de telle et telle personne. Oh, Jean, tu devrais t'arrêter à telle place. Mais oui, mais Mylène, je peux faire toutes les maisons une après l'autre. Et j'ai 74 ans. Mylène, Marie-Hélène, je préfère que Dieu les visite, touche leur cœur. Et si Dieu le veut, j'en rencontrerai quelques-uns, quelques-unes, où il les emmènera chez nous. Mais je peux faire toutes les maisons. Dans toutes les maisons, il y a de la misère, ici. Oui, tu as raison. Jésus le savait. Il a pourtant dit à ses disciples, n'allez pas de porte en porte. Allez dans une maison où ma paix descend. Et puis ensuite, continuez dans un autre village. Pourquoi ? Si quelqu'un dans un village, une localité, accepte Christ et sa parole, et a véritablement l'amour de Christ, c'est quelqu'un, avec l'homme et la femme, qui vont prier, qui vont être un foyer d'amour, de lumière. Et leur tâche sera, par leur mode de vie, leur façon d'être, de montrer quelque chose d'autre au village, à l'humanité qui les entoure. La petite méthode de Jésus, c'est une maison par village. La petite méthode de Jésus, c'est les moyens humbles. Et regardez comment Dieu a fait. Jésus est né dans une étable à Bethléem. Comment il a fait jusqu'à 30 ans à Nazareth, en train de travailler de ses mains. Bien sûr qu'il était fils de Dieu déjà là. Bien sûr qu'il a été avec ses frères et ses sœurs et sa mère, la veuve. Un bon témoin de l'amour divin. Bien sûr que les gens ont posé leur regard sur eux. Voulez-vous que les autres posent leur regard sur vous ou sur Jésus en vous? Chers amis, sur Jésus en vous, c'est honorable. Mais qui sommes-nous pour gagner le monde entier à Jésus? Faisons confiance. Mettons-nous dans la prière et l'adoration, l'intercession. Faisons confiance à Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Le Fils, Luc 15, verset 21, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » La robe blanche, la robe pure, de la sainteté, comme celle de Jésus. Apocalypse chapitre 19, c'est une préfiguration de la noce éternelle de tous les élus qui sont revêtus du sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus. Apocalypse 19, n'est-ce pas? Mais aussi Ésaïe 25, verset 6 à 9. C'est la même chose. Et les noces de Cana. Quand l'apôtre Jean dit « Et Jésus fit voir pour la première fois sa gloire » aux noces de Cana, en changeant de l'eau en vin, Dieu montre sa gloire? Non, c'est le signe du grand rassemblement des nations, d'Ésaïe 25, versets 6 à 9, et d'Apocalypse, chapitre 19, les grandes noces de l'épouse et du mari, des humains et de Dieu. Qu'il est grand l'amour de Dieu, qu'il est grand l'amour de Jésus, pour avoir un tel projet pour nous tous. Mettez-vous dans l'adoration, la prière tout seul, s'il vous plaît, à genoux, à plat ventre, vers Jérusalem, vers les monts des Oliviers, vers le tombeau de Jésus. S'il vous plaît, sachez qu'il va revenir, sachez qu'il va régner là, et que vous serez là un jour à ce banquet. Alors, tournez là, montrez votre désir à Dieu. Voulez-vous faire plaisir à Dieu, comme un enfant, un petit enfant qui apporte des fleurs à sa maman, à son papa? Dites-lui dans la prière, c'est un vrai papa. qui entend les paroles de ses enfants. Alors le papa apportait lui vite la plus belle robe à cette époque-là. Les hommes mettaient des robes dans certains pays encore aujourd'hui. Ici en Occident, pas du tout. Revêtez-le, mettez-lui-en. Revêtez-le, donc il parlait aux anges. Les anges, les archanges, les saints du ciel qui viennent là, qui revêtent les élus. Alors, mettez-lui un anneau au doigt, le signe de l'alliance éternelle avec Dieu, et des souliers aux pieds. Les souliers, pourquoi des souliers? Les souliers sont le zèle. Les pieds et les souliers sont le symbole du zèle. Le zèle de l'amour. Zèle, en grec, ça vient du feu, de l'ardeur. Quand quelqu'un est en bonne santé, il a des bons pieds, des bonnes chevilles. Et il peut avoir du zèle et de l'ardeur pour faire des tas de choses. Les pieds, dans Éphésiens chapitre 6, c'est, bien sûr, il y a les sandales du soldat romain, qui est un symbole du zèle des chrétiens au premier siècle. Et le zèle est nécessaire. Mais le zèle vient de quoi? De la joie d'être aimé du papa. Le zèle est fondé sur un esprit de reconnaissance, d'action de grâce. Et quand je pense à mon ami Saïd au Pakistan, je pense que son zèle est fondé de cette façon-là. Quand je pense à certains d'entre vous, en Europe, qui ont du zèle, eh bien, c'est parce qu'ils connaissent l'amour de Jésus et ils ont de la joie de lui rendre le plus possible en retour, le plus possible en retour. Imaginez, quand vous êtes dans une famille où les enfants demandent toujours quelque chose, toujours, ils vont grandir, ils grandissent, ils deviennent adultes, ils demandent toujours aux parents. Mais normalement, à un moment donné, l'enfant qui aime rend en retour bien plus qu'il n'a reçu. Il ne fait pas du troc, un échange, un prêté pour un rendu, et ou dit bienfait d'un moment du papa pour un bienfait vers les parents. L'amour donne le zèle, donne le feu pour aimer. Et c'est cela qu'il y a ici. Avec les sandales. Chers amis, analysez-vous. Avez-vous du zèle, de la reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien, envers ceux qui vous aiment? Ou êtes-vous centré sur vous-même encore? Alors vous êtes pieds nus, vous êtes sans chaussures. C'est une belle image pour savoir ce que vous êtes. Alors je vous recommande de lire Jean chapitre 13. Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples? Pour tirer la saleté des pieds nus, et puis après, pour pouvoir remettre de bonnes sandales. Chers amis, avez-vous pensé que marcher avec des sandales, à cette époque-là, il y avait toujours la saleté, la poussière? Mais l'image touche un domaine spirituel. C'est Jésus me lave, il me donne son zèle, son ardeur, le feu de son amour, pour que j'ai, avec mes sandales, un esprit de service, de reconnaissance, actif. Actif. Et donc ici, il est clair que dans cette parabole, il y a énormément de signification à propos de nos comportements. Il y a de quoi s'analyser. Alors, au verset 23, Luc 15, verset 23, « Amenez le veau gras et tuez-le. » Donc, on tue un veau, on mange tous avec tous les gens du voisinage, etc. C'est, dans beaucoup de pays, c'est comme ça, vous savez. Quand moi, j'étais en Afrique, il y a eu des moments de réjouissance où, bon, moi, je voulais pas manger de viande. Parce que quand on prêche, quand on circule beaucoup, si on mélange les viandes et les amidons, on est très vite épuisé, surtout sous la chaleur, surtout si on est européen en plus. Il faut manger soit des amidons et des légumes, soit de la viande et des légumes. Et comme ils mettaient de tout, moi je ne voulais pas la viande. En plus, je savais que la viande était très chère pour eux, qu'ils se privaient énormément. Je n'en voulais pas. J'ai dit, je veux manger comme vous, pas comme les Européens. On mange de tout. On va faire la sieste, on prend une bonne tasse de café. Non. J'avais plusieurs églises à visiter, j'avais des gens à rencontrer, il y avait beaucoup de misère. Je voulais résister à la fatigue, à la chaleur. Il n'y avait qu'une solution. C'était ne pas manger de protéines animales. Des amidons et des légumes. Ou alors des protéines animales et des légumes. Et ici donc, amenez le veau gras, étions-le, mangeons, réjouissons-nous. C'est un repas où, tout compte fait, on a fini de travailler, on a fini de s'activer, on a fait tout ce qu'on devait faire, et bien maintenant on va manger, on va avoir un coup de pompe, ça c'est clair, on va avoir un boum, l'estomac va devoir travailler et le cœur avec, mais ce qu'il y a, on va se réjouir. On n'est plus dans la bataille, on n'est plus dans la lutte, on est dans le repos, on est bien avec le Maître, on est bien avec le Seigneur. Et on peut un peu se laisser aller. Pas dans le péché. Pas dans le péché. Se laisser aller dans l'amour divin. Car mon fils que voici était mort, donc séparé de moi éternellement, il est revenu à la vie, il est revenu en communion éternelle avec moi. Il était perdu, oui, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Nous avons l'image ici de tout ce qui se passe au ciel chaque fois qu'il y a une âme sauvée. Quand je voyais cet homme extrêmement intelligent, très doué, gilet jaune, qui a fait 28 manifestations en gilet jaune, qui a été traîné en justice, et qui a des arguments pour montrer que le Covid et tous les vaccins ont été magouillés, cet homme qui a l'appui de plusieurs médecins, des dizaines de médecins sont passés chez lui, qui ont refusé les vaccins et de vacciner, et qui ont été discrédités et qui n'ont plus droit à travailler. Ils font partie des 135 000 médecins et infirmières en France. Il y en a plusieurs dizaines qui sont venus chez lui, passer la soirée quelquefois. Ce sont des gens qui sont humiliés, abaissés, mais pourtant qui savent, ils veulent être droits. Cet homme voudrait bien que la droiture revienne, que la justice, la vérité se fasse en France. Cet homme a été jusqu'aux Champs-Élysées, à la République, voir le Premier ministre. Il lui a dit tout ce qu'il disait. Le Premier ministre n'a pas répondu, pas un mot. Il lui a donné un document que j'ai à la maison. Il n'y a rien de faux dedans. Alors, chers amis, cet homme voudrait que le monde devienne meilleur par les hommes, par la justice humaine, que la démocratie se ressaisisse et établisse un nouveau jour. Mais Karl Marx a déjà fait ça. Napoléon a déjà fait ça. Tous les grands leaders du monde et l'Antichrist veulent le faire. La grande séduction attend cet homme. Un homme qui apparaît bien, qui lui apparaît très bien, donc tous les révoltés, tous les gens qui souffrent de cette situation aujourd'hui vont se faire avoir, sauf s'ils appartiennent à Jésus-Christ. S'ils appartiennent à Jésus-Christ, ils ne seront pas séduits. C'est pour ça que Jésus dit dans Luc 21, attention, il viendra de faux Christ, attention d'être séduit. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Des nouveaux sauveurs. Tous les pays, quand ils choisissent un ministre, un président, etc., un roi, c'est un sauveur. Il faut qu'il leur donne à manger, qu'il veille sur eux, qu'il gère tout. Il y a beaucoup de faux Christ, de faux sauveurs. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs de la maison et lui demanda ce que c'était. Il est donc méfiant sur ses gardes. Pourtant, c'est chez lui. Bon, c'est une nature méfiante. C'est pas normal. Donc, oh là là, je veux savoir ce qui se passe. Au lieu d'aller trouver son père, il envoie quelqu'un. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Donc, vivant, instantanément, branché en Dieu, branché dans la vie, la vraie vie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent en colère, ils ne voulaient pas entrer. C'est le symbole de l'homme religieux qui applique des règlements et qui ne veut pas le salut par grâce. Le salut du pécheur par grâce dérange l'homme religieux, l'homme intégriste, l'homme de la loi, des règles, des rites. Et c'est comme ça. C'est sur la terre. Galates chapitre 4, verset 29. De même qu'il en était ainsi précédemment, celui qui est né selon la chair persécute encore aujourd'hui celui qui est né selon l'Esprit Saint. Chers amis, vous avez compris que le combat est grand pour les vrais chrétiens aujourd'hui. Le combat, pas contre les autres chrétiens charnels, pas contre les non-chrétiens. Le combat est grand pour rester dans la foi. Le combat est grand dans le silence de la chambre, dans le silence du jardin. Il faut se mettre à genoux, il faut prier. Plus vous prierez, plus vous verrez les choses changer, plus vous verrez les bénédictions de Dieu sur des pécheurs dont humainement vous n'espérez rien du tout. Vous, en priant, vous pouvez gagner des enfants perdus, cet enfant prodigue perdu, qu'il retourne vers Dieu, en priant. La grande adoration est nécessaire. Quand Charles Spurgeon en Angleterre prêchait qu'il a gagné des milliers d'âmes au Seigneur, c'est parce que sous la salle où il prêchait, où plein de gens venaient, c'est qu'en dessous, dans la salle, il y avait des gens en permanence, jour et nuit, qui priaient. Malheureusement, par la suite, il y a eu tellement eu de convertis, il y a eu tellement d'églises, qu'un jour, il a fallu repréciser la doctrine, parce que tout le monde donnait un peu son avis et changeait un peu la doctrine de l'évangile. Et notre ami Spurgeon s'est trouvé en minorité contre des centaines de chrétiens. Ils étaient neuf à vouloir garder la bonne doctrine de l'évangile que John Spurgeon avait prêché au début de sa carrière d'évangéliste. Tous les autres avaient déjà ajouté quelque chose, retranché quelque chose, et se disaient chrétiens. Le vrai chrétien souffrira toujours, mais il sera toujours heureux, parce qu'il ressemble à son maître, et il sera accueilli dans les bras de son maître. Viens, et fidèle serviteur, toi qui m'as été fidèle dans les petites choses. Ben oui, parce que tu n'as jamais eu les grandes choses, les grands succès. Mais voilà, chers amis, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui sont des enfants égarés, des enfants de Dieu égarés. Beaucoup de gens ont dilapidé ce que Dieu leur donnait tous les jours, depuis leur naissance. Peut-être n'en peuvent-ils rien. Peut-être n'ont-ils pas été enseignés étant tout petits. Peut-être n'ont-ils pas reçu de bons modèles chrétiens. Mais il n'est jamais trop tard, puisque Jésus a dit, quand j'aurai été élevé au ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'est jamais trop tard. Jésus-Christ est puissant. Il est vivant au siècle des siècles. Même si on n'a rien reçu, on peut tout recevoir. J'en termine comme ça. Même si on n'a rien reçu des parents, du milieu où on était, on peut tout recevoir en Christ. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Colossiens. Colossiens. Je vous lis ceci. Colossiens chapitre 2, verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. C'est le cas avec vous. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Pensez à un chêne, un arbre, s'il veut tenir bon, il faut qu'il ait des racines dans le sol. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Développez vos racines, chers amis. Développez vos racines. C'est caché, les racines. C'est vital pour l'arbre. Si vous ne développez que ce qui est apparent, comme notre société le fait, ben, l'arbre s'enracine, il tombe. C'est pour ça que plein de gens vont en psychiatrie, chez les psychologues, ou boivent, ou fument, ou se droguent, ou se suicident, ou s'envolent dans des excès sexuels. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Voilà ce que je vous ai dit, abondé en actions de grâce. Êtes-vous décidé à prier longuement dans le silence de votre cœur, de votre âme? Jésus-Christ peut tout remplir en vous. Jésus-Christ peut remplir le plus grand des vides. Il n'y a pas de chose impossible pour Jésus-Christ. Parlez-lui, cherchez-le. Colossiens 1,19, Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Vous avez vu? Par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous qui étiez autrefois étrangers, ou qui l'êtes maintenant, hein, vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, ennemis de Dieu, il vous a maintenant réconciliés par sa mort à la croix, dans le corps de sa chair crucifiée, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, donc sur les fondations de Jésus, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Dieu vous bénisse. Jésus peut vous remplir de toute plénitude. De toute plénitude, les amis. Dites-lui que vous osez croire à cela. Dites-lui que vous osez croire dans sa gloire. Dans sa gloire. Colossiens, chapitre 1, verset 27, « Dieu a voulu faire connaître aux hommes la glorieuse richesse du mystère de Christ parmi les païens. Christ en vous, la certitude de la gloire. » C'est lui que nous annonçons, nous exhortons tout homme, toute femme, nous instruisons tout homme, toute femme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Bon week-end. C'est dans l'amour de Jésus que je vous ai dit tout cela. Comme je disais tout à l'heure à une de mes filles, pourvu qu'ils ne me prennent pas pour un gourou. Chers amis, ce n'est pas mon intention. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Amen.